Le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine nous donne l'occasion de revenir sur l'histoire de ce dernier pays, qui est finalement relativement mal connu par nous occidentaux. C'est au travers de 3 émissions des Fenêtres de l'Histoire que je vous propose d'essayer de mieux comprendre les relations complexes qu'entretiennent Russes et Ukrainiens.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Depuis le déclenchement de l'offensive des troupes russes en Ukraine, on entend souvent la réflexion qui consiste à dire que ce sont deux peuples frères qui se font la guerre. Et il est vrai que quand on regarde la longue histoire des relations entre l'Ukraine et la Russie, il est vrai qu'il y a à la fois une parenté culturelle, en grande partie également religieuse, et aussi des liens complexes qui se sont noués au travers des siècles entre Ukrainiens et Russes. C'est donc aujourd'hui, sur la période qui va essentiellement du XVIIIe siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, que je vous propose d'observer ces relations. Bien sûr, il faudrait, si nous avions le temps, remonter bien plus haut dans le temps, puisque la Russie est née sans doute à Kiev aux alentours du IXe siècle, au point que l'on parle des fois d'une Russie de Kiev, et que la ville de Kiev est d'ailleurs, dans la mémoire russe, une ville extrêmement importante. Mais il est vrai que l'Ukraine, qui, de son nom véritable, Ukraina, signifie à la marge, c'est-à-dire à la marche de l'Empire, à la marche de la Russie, aux confins de la Russie, eh bien cette région a été en balance entre plusieurs puissances, qui fait qu'il y a d'abord eu les Mongols qui se sont effectivement installés là au XIIIe siècle. Il y a eu ensuite, à partir du XIVe, XVe, XVIe siècle, le grand royaume de Pologne-Lituanie qui a englobé une grande partie de l'actuelle Ukraine, sans arriver néanmoins jusqu'au rivage de la mer Noire. Il y a eu l'Empire ottoman qui, justement, a contrôlé le sud de l'Ukraine, les rivages de la mer avec, en particulier, la Crimée. Et puis, bien sûr, à partir, en particulier, du XVIIe siècle, il y a eu la Russie qui se constitue en tant que puissance importante qui va compter dans le jeu européen et à partir du règne de Pierre le Grand, qui débute en 1682, eh bien, l'Ukraine va être un enjeu territorial extrêmement important pour l'Empire russe. Mais si on se place au début du XVIIIe siècle, quelle est donc la situation ? À vrai dire, les Cosaques d'Ukraine, car une grande partie de la société ukrainienne s'organisait autour du phénomène de ces populations nomades et guerrières qui étaient les Cosaques et qui vont devenir finalement définitivement les vassaux de la Russie après l'espoir qu'ils avaient eu de voir le roi de Suède, Charles XII, qui avait entamé une guerre en 1700 contre Pierre le Grand, emporter le conflit, remporter la victoire. Mais la défaite suédoise de Poltava marque également les espoirs d'une quelconque indépendance de l'Ukraine et Ivan Mazepa, chef des Cosaques ukrainiens, va finalement se rallier à la couronne russe, plus ou moins contraint. L'idéal désormais de la politique russe va être de pénétrer de plus en plus dans le sud de l'actuelle Ukraine jusqu'à atteindre la mer Noire, car la mer Noire est finalement l'antichambre d'autres rêves de la géopolitique russe, la mer Méditerranée. Il faut bien voir que les défaites successives de l'Empire ottoman contre les Russes au cours du XVIIIe siècle va permettre à celui-ci de prendre possession des rivages de la mer Noire et en particulier du Khanat de Crimée suite au traité de Kaïtchourk-Karnadji en 1774. Mais en même temps que les Russes développaient leur influence vers la mer Noire, il y avait une autre puissance qui allait profiter de l'affaiblissement, cette fois-ci, du royaume de Pologne. effectivement une partie de l'Ukraine qui était jusque-là sous administration de la Pologne, c'est la région finalement aujourd'hui de Lviv, va être partagée en 1772 au profit de la couronne de Marie-Thérèse d'Autriche. Et donc il y a une partie de l'Ukraine de l'Ouest, plus proche d'ailleurs du catholicisme et plus proche de l'Europe occidentale, qui va se trouver rattachée à l'Empire des Habsbourg. Ce qui fait que à la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe, l'Ukraine est finalement partagée entre des influences russes pour une très grande partie, mais également autrichiennes. À vrai dire, durant le XIXe siècle, les deux États ne vont pas avoir tout à fait la même attitude vis-à-vis de la question nationale ukrainienne et de la culture ukrainienne. En effet, il y a une vraie culture ukrainienne. Et les Austro-Hongrois, l'administration de l'Empire des Habsbourg, va prendre en compte cet aspect. Effectivement, il va y avoir une autonomie culturelle dans l'Empire des Habsbourg. L'ukrainien pourra être parlé. Et d'ailleurs, on crée en 1875 une université qui va finalement, à Tchernovitz, être en partie, dispensée en partie, des enseignements en ukrainien, même si essentiellement c'est l'allemand qui domine la langue de l'enseignement. D'autre part, en Russie, nous avons une attitude différente. En effet, il y a une volonté de russification qui voit le jour sous Nicolas Ier, devient concrète véritablement à partir des années 1870, sous le règne du tsar Alexandre II, mais alors va prendre une importance considérable à partir des règnes d'Alexandre III, monté sur le trône en 1881, et de Nicolas II, qui devient tsar en 1894. Ce qui fait qu'à la fin de l'Empire russe, il y a une volonté d'une partie des élites intellectuelles de l'Ukraine, eh bien, d'obtenir une plus grande liberté vis-à-vis de l'Empire russe et se pose désormais la question d'une pérennité d'une culture ukrainienne au sein de l'Empire russe. La situation issue de la Grande Guerre allait modifier indéniablement la structure politique de l'Empire russe. Celui-ci s'effondre en mars 1917 et d'ailleurs, à l'annonce de l'effondrement de l'Empire tsariste, est créée une République d'Ukraine le 17 mars 1917, dont le président est Mykhailo Rouchevski. Cette république va être reconnue par les alliés. En effet, en janvier 1918, la France et la Grande-Bretagne reconnaissent ce gouvernement installé depuis moins d'un an à Kiev. Le problème est que l'armée rouge qui vient de se constituer va essayer de récupérer le territoire qui s'était proclamé indépendant. Et donc, le gouvernement ukrainien doit quitter Kiev en février 1918. Mais la durée de la guerre, les événements de la guerre vont à nouveau modifier la donne. En effet, en mars 1918, par le traité de Brest-Litovsk, Lénine va livrer l'Ukraine aux occupants allemands et austro-hongrois, permettant un retour d'un gouvernement sous protection des empires centraux à Kiev. Mais à vrai dire, la situation en 1918-1919 est terrible en Ukraine. Il y a en effet des corps francs allemands qui sillonnent le pays, des troupes russes débandées, des groupes d'anarchistes dirigés par Nestor Makhno. Vous avez également différentes factions ukrainiennes. Certaines sont plutôt soutenues par Berlin, d'autres sont pro-bolcheviques, d'autres sont pro-occidentales. Et ces affrontements provoquent véritablement une ruine économique dans les campagnes et les villes de l'Ukraine. Ce qui fait que, véritablement, l'indépendance rêvée débute dans une difficulté certaine. Et à vrai dire, le sort de l'Ukraine est grandement lié à la survie ou pas de la révolution bolchevique et aux vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Or, à l'automne 1918, il y a un effondrement général de l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne dépose les armes. Ce qui fait que, finalement, la situation en Ukraine se résume à ce moment-là entre une indépendance qui serait avalisée par les puissances occidentales et, au contraire, le retour vers une bolchevisation et une inclusion dans l'État qui est en train de se constituer progressivement. D'autant plus que, en même temps, les Polonais sont en train de recouvrir leur indépendance et gardent une partie de l'Ukraine de l'Ouest. Ce qui fait que cette indépendance rêvée en 1917 va s'effondrer en 1920 quand les troupes de l'armée rouge vont rétablir l'ordre dans une grande partie de l'Ukraine et va inclure celle-ci dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. Quant au gouvernement ukrainien qui s'était exilé à Berlin, il s'est autodissous en 1923.